die whilst in the shelter from contamination, put them outside. But remember to tag them first for identification purposes. Mine is the last voice that you will ever hear.
Bonjour à toutes et à tous. C'est la musique adoucit les mœurs sur Radio Air Libre, comme tous les vendredis de 9 à 10 heures depuis de longues années déjà. Et rediffusion le samedi de 14 à 15 heures, une tranche horaire le samedi où nous sommes présents depuis encore plus longtemps que cela. La musique adoucit les mœurs, une émission consacrée à tout ce qui concerne de près ou de loin la paix, la recherche de la paix, de la non-violence, ce qui veut dire souvent la lutte contre les différents obstacles à la paix et à la non-violence. Ainsi, le commerce des armes, le développement d'armes particulièrement dangereuses, etc. Également, on voit les choses sous différents aspects. Ça peut être l'aspect juridique, par exemple, ou d'un autre côté, des aspects humanitaires ou géopolitiques. Et on n'oublie pas non plus deux autres aspects de cette problématique de paix et non-violence, qui est les aspects civils, d'une part, avec l'éducation à la paix, très importante, et également la lutte contre les violences conjugales, par exemple. Et d'autre part, les séquences qu'on pourrait qualifier de plus historiques, où on fait référence à, par exemple, on a fait toute une série sur la guerre de 14 à l'occasion du 100e anniversaire, également des portraits de personnages importants pour le monde de la paix et pour les idées que cela représente. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous propose d'aborder un communiqué. Plus exactement, une note politique qui a été établie par Europe for Peace and Solidarity, en tout cas sa branche belge, et qui concerne la guerre en Ukraine, appelons un chat un chat. On verra assez longuement, d'ailleurs, c'est un document assez important, une série de réflexions, de propositions, de supplications quant à le moyen d'arriver à une paix juste et durable en Ukraine. On parlera également, et ça c'est un document qui vient d'Amnesty International, du décret wallon sur les exportations d'armes qui fête son 11e anniversaire et on n'est pas sorti des flûtes. Il y a également un texte, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler dans l'émission d'aujourd'hui, on verra le temps qui reste en fin d'émission pour parler de l'histoire des inondations utilisées comme armes de guerre depuis très longtemps déjà. On se souvient par exemple des inondations de l'Isère pendant la Première Guerre mondiale, mais ce n'est pas le seul cas, comme on le verra peut-être en fin d'émission. Dans cette émission, la musique adoucit les mœurs, il y a non seulement de la musique en bruit de fond en général, mais il y a également des chansons qui parlent des mêmes sujets que ceux qui sont abordés au niveau, on va dire, informatif dans cette émission. Et je vous propose immédiatement de commencer pour se mettre en jambe avec Gilles Vigneault qui fait suite à Stan Getz et le morceau « You Stepped Out of a Dream ». Sortir de ses rêves quelque part, et on le fait nous autres avec Gilles Vigneault, et qui parle des enfants.
Un enfant promène sur la vie. C'est des ailes fragiles. Un enfant recherche dans la ville de l'air et de l'eau. Il veut mettre les trottoirs en marche, les trottoirs et tous les escaliers. Il reste des pas dans tes souliers. Il vient inventer la nouvelle arche d'alliance de l'intelligence et de l'instinct. Viennent ce matin, viennent ce matin de mai, et la parfaite procession, sans drapeau, sans hymne, sans roi, avec le loup et le dauphin et l'aigle et l'homme, sous les arbres refoliés, dans le silence harmonieux, des naissances, des connaissances et des reconnaissances du temps trouvé. Un enfant apporte dans ta ville ses ailes, ses îles. Un enfant veut trouver dans ta ville de l'âme, de l'air et de l'eau. Un enfant de 9 ans qui m'écoute, un enfant de 9 ans qui m'entend, un savant de 9 ans que j'attends, un savant que les savants redoutent, mettra l'homme en tête de l'homme. Il nous attend au devant du vent. Vienne cet enfant du vent qui saura dévisser la peur et nous désossera la mort, ayant d'abord désamorcé cette planète de femmes et de terre alliées. Le voici cherchant dans nos yeux sa naissance, sa connaissance et la reconnaissance du temps perdu. Un enfant vient d'inventer la ville nouvelle, tranquille. Un enfant vient d'enfanter la ville de l'homme, de l'âme et de l'eau. Un enfant promène sur la ville des ailes fragiles. Un enfant recherche dans la ville de l'herbe, de l'air et de l'eau.
C'était Gilles Vigneault et on enchaîne avec Jean Sibelius, en tout cas une composition de Jean Sibelius, la symphonie numéro 1 en mi mineur. Elle est interprétée ici par le Wiener Philharmoniker sous la direction de Leonard Bernstein. Et cette première symphonie de Sibelius va nous permettre d'aborder le premier sujet de cette émission. C'est donc cette note politique autour de la guerre en Crimée, en Ukraine plus précisément. La Crimée est impliquée également dans l'histoire, mais ça c'est pour d'autres raisons. Cette note politique émane de Europe for Peace and Solidarity, qui est une plateforme européenne, forcément, née en Italie à la suite donc de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Elle est désormais active dans plusieurs pays d'Europe. En Belgique, la plateforme se compose de quelques 65 organisations et est coordonnée par une dizaine d'entre elles, à savoir la FGTB, Beweging CNAPD.net, CNAPD, INTAL, le Mouvement de la paix de Louvain, Pax Christi Vlaanderen, Vrede et Vredesactie. Il y a parmi ces organisations un certain nombre que vous connaissez, auxquelles on fait souvent référence dans la partie informative de cette émission. Dans la mobilisation pour la paix en Ukraine, la branche belge de la plateforme Europe for Peace and Solidarity synthétise ici ses recommandations en vue de les soumettre au débat public. Alors, cette note, c'est tout frais, ça vient de sortir, c'est tout chaud. On l'a eu le 14 juin, donc on ne savait pas vous en parler avant, mais on va se permettre de parcourir, et même plus que parcourir, cette note, parce qu'on va également commenter et faire éventuellement des remarques ou des questions. Il s'agit donc de recommandations pour une paix juste et durable en Ukraine, et cela passe par plusieurs étapes, la première étant de prioriser la sauvegarde de la vie et d'empêcher davantage de destruction. La plateforme Europe for Peace and Solidarity Belgique condamne sans ambiguïté l'agression russe contre un pays souverain. Par cette invasion, la Russie s'est rendue coupable de graves violations du droit international ainsi que du droit international humanitaire. Des cibles civiles sont bombardées, des enfants enlevés, des femmes violées, des réfugiés ou des ambulances sont la cible de tir. Et donc la plateforme exhorte l'armée russe à se conformer au droit international et à se retirer du territoire ukrainien. Quoi que la Russie dise et décide et déclare, au niveau international, ce sont toujours les frontières de l'Ukraine telles qu'elles étaient déjà avant 2014, bien entendu, et l'annexion de la Crimée par la Russie. La plateforme continue de constater avec effroi les souffrances causées par la guerre. Des dizaines de milliers de morts, oui, j'ai bien dit des dizaines de milliers, on ne s'en rend pas compte comme ça en distance, mais ça fait quand même pas mal de monde. Certains parlent même de 100 000 soldats tués de part et d'autre, ou plus de 100 000 soldats. Donc quand on dit des dizaines de milliers de morts, ce n'est pas une exagération de la part de Europe for Peace and Solidarity. La plateforme s'indigne de voir ces souffrances et ces destructions s'alourdir toujours davantage avec la prolongation des affrontements. La guerre doit cesser pour éviter de nouvelles effusions de sang. La sauvegarde de la vie et la prévention d'autres destructions doivent être les priorités politiques et diplomatiques absolues. C'est pour viser ces objectifs primordiaux que la plateforme appelle avec force à l'instauration d'un cessez-le-feu, prélude à une résolution politique du conflit basée sur le respect du droit international. Outre la nécessité de préserver au maximum les vies humaines, il en va de l'avenir du continent européen et de l'ensemble du monde menacé par une prolongation et une extension du conflit. Deuxième point mis en avant par Europe for Peace and Solidarity Belgium, c'est d'arrêter le cercle vicieux de la guerre et de s'engager dans une diplomatie active pour l'instauration d'un cessez-le-feu et des pourparlers de paix. Alors, ça semble évident, mais autant leur dire, sans passage par la diplomatie, on n'a évidemment aucune chance d'arriver à une situation de paix. Et toute initiative dans le domaine est la bienvenue, évidemment. Les tensions géopolitiques, puis l'invasion russe, ont engendré un soutien militaire considérable à l'Ukraine de la part des pays européens et nord-américains, note la plateforme. Selon des sources officielles, les États-Unis ont ainsi fourni 37,8 milliards d'euros d'aide militaire et d'armes à l'Ukraine depuis 2014. De manière totalement inédite, la Facilité européenne pour la paix a de son côté débloqué 3,6 milliards d'euros. En ajoutant les livraisons bilatérales, les livraisons d'armes par les États européens membres de l'OTAN s'élèvent ainsi à 12 milliards d'euros. Ces livraisons croissantes d'armes visent à contraindre la Russie à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à l'image des premières victoires militaires ukrainiennes qui ont permis de stopper l'avancée des troupes russes. Alors on va parler d'un certain nombre de documents et d'institutions dans ce texte. Et je voulais revenir et donner quelques précisions sur la Facilité européenne pour la paix. On pourrait faire de l'humour noir et dire qu'on doit changer le nom et l'appeler Facilité européenne pour la guerre, puisque cette institution ou cette Facilité européenne créée en 2021 a, théoriquement en tout cas, pour objectif d'améliorer la capacité de l'Union européenne à prévenir les conflits, à consolider la paix et à renforcer la sécurité internationale. Elle manque manifestement ses objectifs dans cette situation aussi, écrit Europe for Peace and Solidarity. Pourtant, écrit la plateforme, pourtant rien ne permet aujourd'hui de préjuger de l'effectivité de ce seul soutien militaire dans la recherche du respect par la Russie du droit international et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On sait par contre les coûts humains, sociétal et environnemental du conflit et de sa prolongation. Or, paradoxalement, nous constatons peu d'efforts de ces mêmes pays sur le front diplomatique afin de rechercher avec d'autres moyens la fin des hostilités et le respect du droit international. Au contraire, l'escalade en cours semble ne pas avoir de fin en vue. Des armements de plus en plus lourds sont fournis à l'Ukraine. La Russie, de son côté, reçoit également un soutien militaire d'autres pays et agite de plus en plus ostentatoirement la menace nucléaire. Pour le résumer en une phrase, on dira qu'on est en train de jeter de l'huile sur le feu et que c'est pas comme ça qu'on va éteindre l'incendie. La plateforme appelle avec force au déploiement d'une diplomatie de paix active. Tous les moyens diplomatiques doivent être utilisés pour amorcer une désescalade et amener les parties belligérantes à cesser le feu en vue de négociations conduisant à une paix juste et durable. Alors, j'ai vu par exemple une initiative de chefs d'État africains, entre autres le président sud-africain qui pourtant est proche à certains niveaux ou dans certaines occasions de la Russie, également le président de la Ligue arabe, qui vont aller rencontrer les uns et les autres pour tenter d'apporter une solution ou en tout cas un petit coup de pouce vers une solution diplomatique. Il faut dire que ces pays, où beaucoup de pays sur la planète dépendent des exportations de blé de l'Ukraine, de blé et d'autres céréales d'ailleurs. Et si de notre côté, en Europe occidentale, on a réussi à aller retrouver ailleurs un certain nombre de produits qui étaient importés précédemment d'Ukraine, eh bien, ça se traduit en menace de famine pour d'autres pays, dans les pays du Sud, bien entendu, les pays, comme on disait d'antan, en voie de développement. C'était parfois en voie de sous-développement, mais ça, c'est une autre histoire. Les parties au conflit peuvent être incitées à s'asseoir à la table des négociations en offrant la perspective d'une levée progressive des sanctions à la Russie et en conditionnant le soutien militaire à l'Ukraine d'une disposition à la négociation, écrit de la plateforme. Ces négociations doivent viser une paix juste, mais aussi durable, fondée sur les principes suivants. A. Des accords clairs permettant le maintien du cessez-le-feu. B. Le respect du droit international, en ce compris l'intégrité territoriale. 3. La reconnaissance des droits des minorités en Ukraine. 4. Un mécanisme durable de compensation pour les dommages subis. Et enfin, la documentation et la poursuite des crimes de guerre commis sur le territoire ukrainien. Et il y a encore trois autres points. Une Ukraine neutre avec des garanties de sécurité claires. Le rapportage et la publication des données sur les zones contaminées, radioactivité, toxicité, présence de mines antipersonnelles, etc. afin d'alerter et de protéger les populations et d'accélérer le déminage et la mise en hors danger de ces engins. Et enfin, l'organisation planifiée du travail de décontamination des zones polluées. Et ensuite, la note de Europe for Peace and Solidarity Belgique fait un petit peu d'histoire de façon à recontextualiser les choses. La guerre a commencé par un conflit dans le sud-est de l'Ukraine après l'éviction du président ukrainien Yanukovych suite aux manifestations d'Euromaïdan. L'Ukraine était alors un pays politiquement, culturellement et économiquement divisé. La Crimée et la région du Donbass abritent ainsi une importante population russophone qui constituait également la principale base électorale du président déchu et qui ne se reconnaissait pas dans les revendications d'Euromaïdan. Un soulèvement a eu lieu dans les deux oblasts de Donetsk et de Luhansk qui déclarent leur indépendance en avril et mai 2014. Et donc, c'est pas Vladimir Poutine qui l'a déclaré en 2021, 22, 23. Il s'en est suivi de violents combats qui ont fait 14 000 morts entre 2014 et 2021, donc entre séparatistes de ces deux oblasts et le restant de l'Ukraine. Plusieurs tentatives nationales et internationales de cesser le feu se sont soldées par des échecs. Les accords de Minsk, qui prévoyaient une forme d'autonomie pour les deux oblasts, nécessitant un amendement constitutionnel, n'ont jamais été mis en œuvre. De son côté, on est toujours en 2014, la Crimée déclare son indépendance et est annexée à la Russie en mars 2014, une situation non reconnue par le droit international ni par la majorité des États de la planète, une situation qui doit également trouver une issue politique. Ce conflit a très rapidement pris une dimension internationale qui va aller croissante. La Russie, qui dispose d'une base militaire à Sébastopol, en Crimée donc, pour sa flotte de la mer Noire, est intervenue activement lors de l'annexion de la Crimée, allant jusqu'au déploiement de soldats sur le terrain. Elle a également apporté un soutien militaire aux insurgés de la région de Donbass en leur fournissant des armes et progressivement en disposant de troupes régulières sur le terrain au cours de la guerre. Ça, c'est côté russe. Alors, de l'autre côté, l'OTAN s'est également impliquée. Depuis la création de la commission Ukraine-OTAN en 1997, les relations se sont approfondies d'année en année, avec notamment des manœuvres annuelles visant à renforcer l'euro-opérabilité de l'armée ukrainienne avec l'OTAN. Ça veut dire que les uns peuvent utiliser les armes des autres, par exemple. Où peuvent se coordonner plus facilement, c'est également un autre exemple. En 2008, l'Ukraine s'est vue promettre une future adhésion à l'OTAN, malgré les très fortes oppositions exprimées par la Russie. En 2009, l'intégration militaire euro-atlantique de l'Ukraine a commencé, sur la base d'un programme national annuel. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a entraîné une augmentation du soutien militaire, y compris un ensemble complet de mesures d'assistance en 2016 et des livraisons d'armes de la part de plusieurs États membres de l'OTAN. L'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 a été précédée de deux manœuvres militaires russes, manœuvre de grande envergure au printemps et à l'automne 2021. Ces manœuvres ont déclenché une situation de crise internationale suivie d'initiatives diplomatiques entre la Russie, les États-Unis et certains pays européens. En décembre 2021, la Russie a présenté deux projets d'accord, l'un avec l'OTAN et l'autre avec les États-Unis, dans lequel elle proposait une série de garanties de sécurité, notamment la neutralité de l'Ukraine et une réduction des troupes et des équipements de l'OTAN en Europe de l'Est. L'OTAN a rejeté ces demandes. Les initiatives diplomatiques n'aboutissent pas. On passe ensuite au 21 février 2022, au moment où la Russie, qui ne reconnaît, ou plutôt la Russie reconnaît à ce moment-là l'indépendance autoproclamée de la région de Louhansk et de celle de Donetsk, et elle retire ses parties, ses territoires, des accords de Minsk. Elle se retire des accords de Minsk. Le 24 février, elle lance son opération militaire spéciale, c'est donc 3 jours après. Les troupes russes envahissent l'Ukraine à travers toute la région frontalière et avancent vers Kiev. En partie grâce à la résistance des troupes ukrainiennes et au soutien militaire croissant de l'OTAN, les forces russes ont été stoppées et repoussées. La plateforme Europe for Peace appelle à considérer les prétentions sécuritaires légitimes exprimées par la Russie, puis le démantèlement du pacte de Varsovie, le démantèlement du pacte de Varsovie, en vue de la construction d'une autre architecture de sécurité sur le continent européen. Elle maintient par contre sa vigilance et sa mobilisation contre les inacceptables velléités impérialistes des dirigeants russes. Des sanctions internationales ont également été mises en place par les États européens et nord-américains, ainsi que certains autres États de la planète. Ces sanctions se sont amplifiées et élargies à mesure de l'approfondissement des hostilités. La plateforme comprend très bien la mise en place des sanctions économiques et politiques permettant d'ajouter un moyen de pression en vue du respect du droit international. Elle rappelle cependant que ces sanctions doivent être justes, ciblées, efficaces et non contre-productives, et qu'elles doivent épargner autant que possible la population civile et ne pas avoir de conséquences sur les États tiers, comme le rappellent les Nations Unies dans ses résolutions idoines. Alors, c'est vrai que ces derniers jours, en tout cas, on a peu entendu l'ONU. Le cadre théorique onusien précise la note. Donc, cadre autour des sanctions est fixé par la déclaration du sommet mondial de 2005 auquel le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies se réfère encore aujourd'hui. Les principes qui entourent les régimes de sanctions sont rappelés dans toutes les 31 résolutions du Conseil de sécurité concernant les différents régimes de sanctions développés depuis à l'encontre de différents pays du monde. Donc des sanctions, mais encadrées, donc, comme je viens de le lire. Alors, effet de musculation ou pas, la menace d'utiliser des armes nucléaires, des armes qui sont là depuis des années et des années, et dont on nous avait bien dit au départ, oui, mais c'est simplement pour faire peur, c'est pas pour les utiliser. Mais si on ne fait pas, si on n'a pas la potentialité de les utiliser, alors c'est comme si on n'en avait pas. Donc il faut montrer, enfin vous m'avez compris, lutter contre les armes nucléaires et ressusciter le régime de contrôle des armements, c'est ce que met en avant Europe for Peace and Solidarity à ce propos. La guerre en Ukraine nous confronte à une menace nucléaire sans précédent, écrit la plateforme. Celle-ci, la menace nucléaire, se vérifie tant par les menaces russes d'utilisation d'armes nucléaires que par le déploiement d'armes nucléaires russes en Biélorussie. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN, pays frontalier de la Russie, signifie que ce pays va désormais participer à la stratégie de dissuasion nucléaire de l'Alliance. Le président finlandais n'a pas exclu, en novembre dernier, le déploiement d'armes nucléaires sur son sol. Les États-Unis, de leur côté, vont remplacer les bombes nucléaires de 5 pays européens, à savoir la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie, qui abritent sur leur territoire des bombes nucléaires qui seront remplacées par le nouveau modèle, les B-71-12, dont on nous dit qu'elles sont plus petites et plus facilement déployables. Elles doivent arriver dans les mois qui viennent. Et donc, là aussi, danger à deux niveaux. On pourra avoir une attaque à longue distance de l'armée russe sur les endroits où sont situées ces armes nucléaires ou sur des centrales nucléaires pour l'électricité, ce qui ferait très, un beau feu d'artifice. Enfin, quand je dis un beau feu d'artifice, on sera probablement plus là pour en parler. Et donc, face à cette menace, tout doit être mis en œuvre, écrit la plateforme, pour que les puissances nucléaires respectent leurs obligations de désarmement au titre du fameux traité de non-prolifération auquel elles ont adhéré. Il est impératif également que tous les pays adhèrent au traité d'interdiction des armes nucléaires, et ce, le plus rapidement possible. C'est un traité international auquel les pays possédant ou ayant en dépôt des armes nucléaires n'ont pas désiré adhérer, jusqu'à présent en tout cas, mais la pression peut évidemment toujours se maintenir. Le statut d'observateur que la Belgique a endossé à la conférence des États parties au traité d'interdiction des armes nucléaires doit être sincère et aboutir à une inscription plus significative de la Belgique dans le court terme, dit la plateforme. La plateforme rappelle d'ailleurs que la création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Europe jusqu'à l'Oural devrait également constituer une étape importante. C'est ce que prévoit le traité de non-prolifération à son article 7, et également le rapport de 1999 de la Commission du désarmement des Nations Unies. Les risques croissants d'une confrontation nucléaire se manifestent également dans l'effondrement inquiétant du régime de contrôle des armements. Alors, il y a eu toute une série de traités antérieurs qui ont été remis en question, voire pas abrogés, mais désertés, pourrais-je dire. Ainsi, en 2002, les États-Unis se sont retirés unilatéralement du traité ABM, autrement dit Anti-Ballistic Missiles, les missiles anti-ballistiques, c'est un traité de 72, qui imposait d'importantes restrictions à la construction des boucliers antimissiles. En 2007, les États-Unis et l'OTAN décident de construire un système de boucliers antimissiles en Europe, à la suite de quoi la Russie annonce qu'elle suspend sa participation au traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, traité de 1990, qui imposait des limites à certaines catégories d'armes conventionnelles. En 2019, en raison d'un différend sur la portée d'un système de missiles russes, les États-Unis se retirent du traité FNI, Force nucléaire intermédiaire, traité de 1988, essentiel pour la sécurité de l'Europe, tant il prévoit l'élimination de tous les missiles de croisière et missiles balistiques ayant une portée se situant entre 500 et 5500 km. Il est le premier traité à avoir éliminé totalement une catégorie d'armement. En 2020, les États-Unis se retirent également du traité ciel ouvert, c'était du temps de Trump. C'est un traité sur les vols de reconnaissance non armés, suivi par la Russie quelques mois plus tard, également retiré du traité. Le 21 février 2023, la Russie annonce qu'elle suspend sa participation au programme New Start, programme destiné à la limitation des missiles à longue portée, et c'est le dernier traité de contrôle des armements avec la Russie encore en vigueur. Voilà, c'est un gros morceau, comme vous pouvez vous en rendre compte. Il y a encore plusieurs pages. Et ce que je vous propose, c'est de terminer ce sujet pour aujourd'hui et de reprendre dans une prochaine émission la suite de cette note politique et de continuer à la lire et à la détailler, évidemment. Une note donc de Europe for Peace and Solidarity, la branche belge, qui comprend un certain nombre d'organisations. Je vous en ai cité toute une série. Par exemple, eh bien, si je retrouve la bonne page, ici, voilà, donc la FGTB, la CSC, Agir pour la paix, Andre Europa, Attaque Bruxelles 2, Beweging.net, la CNAPD, le Forum Nord-Sud, Groen Plus, Intal, le Leuvense Vredesbeweging, le MCP, le MJS, le MOC, Pax Christi Vlaanderen, Vrede, Vredesactie, Vriendschap zonder Grenzen, Amitié sans frontières et Viva Salut, pour ne citer que celle-là. Ce que je vous propose, c'est de continuer en musique et une chanson un peu nostalgique. C'est Léo Marjan avec Seul ce soir, chanson qui date de l'époque de la Seconde Guerre mondiale et qui évoque la situation d'une fiancée, d'une épouse, d'une maman, d'un membre de la famille qui est triste parce que l'être aimé, le mari, le compagnon, le père, est parti à la guerre, est prisonnier de guerre éventuellement, et qu'on espère son retour. Entre-temps, on est seul ce soir. Avec mes rêves, chante Léo Marjan.
J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour.
Bien, pour continuer, on a pris en fond sonore Rue du Trône, une composition du groupe Zola Quartet, un groupe de jazz belge. Et je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la musique adoucie les morts, que c'est tous les samedis de 14 à 15 heures, c'est la rediffusion du vendredi. L'émission est effectivement, vous est proposée le vendredi de 9 à 10 heures et rediffusée le samedi à 14 heures. Alors j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez nous envoyer des critiques, des remarques, des suggestions, toujours s'améliorer. Si c'est pour des injures, alors vous allez ailleurs, c'est préférable. Trois moyens de nous contacter. La page Facebook de l'émission La Musique Adoucit les Mœurs. Vous pouvez vous faire membre de cette page sans problème, il suffit de le demander. Et vous verrez que j'y poste de temps en temps des choses qui sont un peu plus difficiles à détailler en radio. Ou alors ce sont des documents qui sont vraiment très longs et que 50 pages. Ou bien des choses qui sont plus visuelles, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Il y a la messagerie de Facebook, donc, pour nous contacter éventuellement. Sinon, il y a l'adresse postale de Radio Air Libre, émission à la musique adoucie les mœurs, 365A Chaussée d'Alzenberg, Alzenberg avec un M devant le B, bien entendu, et c'est à 1190 Bruxelles, 1190. Et puis l'adresse électronique de Radio Air Libre, là il ne faut même pas mettre de timbre dessus, c'est Radio Air Libre en un mot et au singulier @skynet.be. Vous mettez dans le sujet, dans l'objet de votre message, que c'est pour la musique adoucie les mœurs, ça nous sera transmis. Le 21 juin prochain, le décret wallon réglementant les exportations d'armes fêtera son 11e anniversaire et le constat est sans appel. La région wallonne ne respecte toujours pas les obligations qu'elle a elle-même prises il y a maintenant plus d'une décennie. C'est Amnesty International qui, dans un message du 14 juin, donc c'est tout récent, fait référence à ce problème de droit, dans la mesure, Amnesty est intéressé, dans la mesure où cela hypothèque les droits humains dans d'autres pays, les pays dépositaires ou récipiendaires des armes wallonnes exportées en ne respectant pas la réglementation de la région wallonne. En dépit de ces engagements, écrit Amnesty, ces engagements internationaux et de son propre décret, la région wallonne a continué d'exporter des armes vers des pays se rendant coupables de graves violations du droit international humanitaire et du droit international des droits humains. Le droit des droits humains. Le cas le plus emblématique est celui de l'Arabie Saoudite, écrit l'organisation. Arabie Saoudite pour laquelle des licences d'exportation ont encore été attribuées au début de législature 2019-2024, alors que Riyad était à la tête d'une coalition engagée dans un conflit qui a fait de nombreuses victimes civiles au Yémen depuis 2014. Vu l'opacité qui prévaut dans les pratiques du gouvernement wallon concernant les exportations d'armes, de nombreuses autres destinations font craindre que des armes wallonnes pourraient servir à commettre des violations graves. On peut notamment penser aux Émirats arabes unis, engagés au Yémen dans la même coalition que l'Arabie saoudite. Il y a également l'Indonésie, dont les militaires ont commis de nombreuses violations des droits humains en Papouasie et en Papouasie occidentale, et à la Turquie qui mène des opérations militaires en Libye, en Syrie et au Haut-Karabakh. Il est grand temps, écrit Amnesty, que l'irresponsabilité et l'opacité des décisions d'exportation d'armes cessent et que la région wallonne respecte ses propres obligations prises il y a maintenant 11 ans. Et à la suite de ce texte, Amnesty International propose de signer une pétition qui demande au ministre-président wallon et au gouvernement wallon d'enfin appliquer le décret wallon. C'est normalement leur rôle de le faire et pas aux organisations de la société civile de le faire à leur place, malgré qu'il a fallu à certains moments déposer plainte au Conseil d'État et faire annuler des licences illégales signées par le gouvernement wallon et qui ne respectent pas les normes édictées par ce même gouvernement wallon. On va continuer en chanson avec Jackie Lager, cet extrait d'une fête, c'est enregistré en public, lors d'une fête à la chanson romande. Il y avait Henri Dess, il y avait Michel Buller et quelques autres. C'est en 1979, en Suisse romande donc, et Jackie Lager chante une chanson intitulée « Les maîtres ou le maître du monde ».
Comme avant-dernière chanson, on est un peu pressé par le temps, mais je tiens à faire celle-ci. Je la dédie à Pierre Chastelin, qui n'est pas parmi nous. Alors, il faut que je me souvienne du texte, parce que c'est tout neuf. Ça commence comme ça. Là-bas, dans ta prison, la petitesse de ta cellule n'a d'égal que l'esprit de l'armée. Ici...
Ça va.
Ici règne l'espace et la libre pensée. Il ne manque que tes chansons. À Noël ou à mon anniversaire, le jour des pères, à la fête de Pierre, au lieu de mouchoirs et d'une boîte de cigares, on me donnait des voix et des pouvoirs. Je serai le maître du monde. J'élèverai une armée de colombes, les enverrai sur toute la terre. Des millions de colombes qui pondent comme des bombes sur les militaires. J'élèverai une armée de jocondes, j'entraînerai un bataillon d'Apollon pour défendre ce nouveau monde contre violence et démons. À Hong Kong ou à Buenos Aires, si au Viet Cong ou en Angleterre, au lieu de pétards qui coûtent des milliards, on nous donnait le choix, les tracteurs ou les chars, on serait les maîtres du monde. On serait une armée de planteurs pour conquérir les déserts et des légions d'agriculteurs contre famine et misère. On serait des millions d'éboueurs pour mettre de l'ordre sur terre. Si à Noël ou à mon anniversaire, le jour de ma fête, à la fête de Pierre. Garde à vous, messieurs les militaires. Garde à vous, messieurs les militaires. Pierre par pierre, on vous aura.
Contraignant dans son domaine qui est celui des objets, le savoir de la science a déjà détruit des choses en tant que choses, longtemps avant l'explosion de la bombe atomique. Cette explosion n'est que la plus grossière des manifestations grossières confirmant la destruction déjà ancienne de la chose, confirmant que la chose en tant que chose demeure nulle. La chosséité, Dingheit, de la chose demeurant en retrait, oubliée. L'être de la chose n'apparaît jamais, c'est-à-dire qu'il n'en est jamais question. C'est cela que nous voulons dire lorsque nous parlons de la destruction de la chose en tant que chose. Si cette destruction est si peu rassurante, c'est parce qu'elle s'abrite derrière un double mirage. D'un côté, l'opinion de la science, devançant toute autre expérience, atteint le réel dans sa réalité. De l'autre, l'illusion que sans nuire à des choses, sans nuire à l'étude exploratrice du réel par la science, les choses pourraient être néanmoins des choses, ce qui présuppose toujours, d'une façon générale, elles étaient comme choses dans leur choséité. La choséité des choses serait devenue manifeste. C'est son appel qu'aurait saisi la pensée. Mais en vérité, la chose comme chose demeure écartée, nulle, et en ce sens, détruite. Ce qui a eu lieu, et a encore lieu, est d'une façon si radicale que non seulement les choses ne sont plus admises comme choses, mais que, d'une façon générale, jamais encore, elles n'ont pu apparaître comme choses à la pensée.
Mon oncle, la femme atomique, peut-être son décennie, c'est de poids atomique. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache, mais j'ai une chose me tourmente. C'est celle de ma fabrication dans un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Et sitôt qu'ils sont tous rentrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton dans le résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné devant les jurés, le voit et la pipe bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'on m'en a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on condamna et puis on l'amnistia. Et pays reconnaissant, les luttes immédiatement chef du gouvernement. Merci.
Eh bien, ça c'était Marie Rocher, enregistrée à la Fourmi à Limoges le 20 mai 2009. et qui suivait très bien ce texte de Martin Heidegger avec en fond l'idée, et pas l'idée, mais le souvenir encore très vivace lorsqu'il écrit ce texte de la bombe d'Hiroshima et de celle de Nagasaki, évidemment, destructeur de choses. On va continuer en chanson, pour une fois, pourquoi pas. Là, tantôt, je vous ai passé Seul ce soir de Léo Marjane. Rina Ketty avait, elle aussi, évoqué la même chose dans J'attendrai. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour, chantait Rina Ketty. Vous êtes toujours à l'écoute de la musique adoucie les mœurs. Donc j'attendrai, et on arrive tout doucement mais sûrement à la fin de cette émission La musique adoucit les mœurs d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée depuis de longues années déjà tous les vendredis de 9 à 10 heures et rediffusion le samedi de 14 à 15 heures sur Radio Air Libre, et que vous avez différents moyens de nous écouter par la voix des ondes en FM 87,7 FM à Bruxelles et en DR. En machin truc plus, là, ce bazar qui... oui, enfin, bon, vous avez compris. Vous pouvez aussi nous écouter via votre tablette, ordinateur et autres téléphones qui vous permettent d'écouter la radio. À la semaine prochaine, donc, pour de nouvelles aventures.